Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, la radio. Avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, émission de cinéma sur Divergence FM tous les mercredis à 12h30 et à 18h30.
Je voulais aussi tirer le film vers quelque chose de plus féerique.
Sergi est le nom de famille comme mamie, c'est le même que mon père et que mon frère, c'est López. Donc je suis Sergi López.
Je m'appelle Mini Le Comte et je viens d'écrire et de réaliser un premier film qui s'appelle Une vie toute neuve.
Will Bill Plimpton, the pornographer, please come to the principal's office?
Eh bien, oui, je m'appelle Bruno Podalides et je suis réalisateur.
Le film est bien.
Et scénariste.
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
And the nominees for Best Motion Picture are Black Swan, The Fighter, Inception, The Kids Are All Right, The King's Speech, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3, True Grit, Winter's Bone. And the Oscar goes to The King's Speech, Ian Canning, Emile Sherman, and Gareth Unwin producer.
C'est toujours Cinérama, émission du 2 février, et nous passons à un film de Tom Hooper avec Le Discours d'un Roi.
Avec ses 12 nominations, Le Discours du Roi a raflé la mise en remportant 4 Oscars, dont ceux du meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur et meilleur réalisateur.
Le film raconte l'histoire vraie du père de l'actuelle reine Elisabeth, un homme qui va devenir par la force des choses le roi George VI, suite à l'abdication de son frère Édouard VIII. D'apparence fragile, incapable de s'exprimer en public, ce roi George VI doit absolument corriger un handicap redoutable pour une personne de son rang, le bégaiement. D'autant plus qu'il n'a pas de chance, le bon roi. Mais l'époque est trouble, nous sommes en 1936, soit pendant la montée du nazisme, et le royaume anglais doit choisir son camp, car la guerre pointe son nez. Et avec tout ça, le monde non seulement a déjà eu ses révolutions anti-têtes couronnées, mais en plus des nazis, il y a les bolcheviks. Alors même s'il est rappelé dans le film qu'au Royaume-Uni, au pays des rois gentils, le roi règne tandis que le Premier ministre gouverne, il est quand même celui qui rassemble la voix du peuple, et la voix du peuple à cette époque passe par la radio qui est en pleine explosion. Alors même si on ne peut pas enregistrer des discours, on peut facilement déplacer des studios, et grâce à cette diablerie de micros, on peut ensuite être entendu dans les chaumières. Il faut donc maîtriser le discours. Alors notre roi George VI est bien aidé par sa femme, son Altesse, qui cherche pour lui les plus grands spécialistes du bégaiement, mais qui par leur méthode finalement ramène le roi à ses mauvais souvenirs d'enfant. Puis vient la dernière chance, chez un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles, et c'est rien de le dire, un Australien qui aspirerait à être comédien plutôt qu'à soigner les troubles liés à la parole. Alors dans son cabinet singulier, des machines dernier cri comme un casque audio ou un enregistreur sur galette vinyle, dont j'ai appris l'existence et sa simplicité d'utilisation dans ce film. Car oui, Le discours d'un roi est un film d'époque, avec des inventions de l'époque, des costumes de l'époque. Alors il y aurait aussi, semble-t-il, des invraisemblances historiques, je mets au conditionnel car j'ai lu un article sur le site Slate.fr de Christopher Hitchen, chroniqueur à Vanity Fair, qui commence ainsi son article « Le discours d'un roi est truffé de grossières falsifications historiques ». Alors l'auteur critique le mythe répandu dans le film d'une famille royale, lisse et exempte de tout reproche. Édouard VIII, le frère aîné de George VI, celui qui a abdiqué donc parce qu'il voulait absolument se marier à une femme américaine deux fois divorcée, ce qui l'affiche mal quand on est chef de l'église anglicane, était aussi un admirateur d'Hitler et a toujours gardé de bons contacts avec ses amis nazis avant d'être définitivement bazardé par Churchill, gouverneur des Bahamas. Alors dans cet article, la posture idéale de Churchill dans le film est aussi mise en cause. Dans l'article de l'émission Cinérama sur le site internet de Divergence FM, vous avez un lien qui vous mènera à l'article de Slate.fr pour faire le point, parce que bien sûr ce serait un peu long. Ici, il s'agit de cinéma, donc on va s'attacher plus à la forme cinématographique qu'à la véracité historique. Alors de ce point de vue, Tom Hooper maîtrise parfaitement son sujet, le scénario est très bien ficelé, les dialogues sonnent parfaitement bien, et c'est d'autant plus important qu'on est là face à un bègue et qu'il doit se sortir donc des ornières du langage. Le film peut se voir comme une fable sur la communication. Alors il y a la radio, la communication de masse, le cadre familial de la royauté avec le dur apprentissage des convenances, quoi dire, avec qui et comment, et puis le discours politique et enfin l'amitié avec une relation particulière qui s'établit entre notre bon roi Georges et son thérapeute qui d'emblée souhaite, dans le cadre de la thérapie, dit-il, abolir la distance qui sépare un roi de son sujet et en viendrait facilement aux familiarités ou au moins à l'intime, mais pénétrer les souvenirs de sa majesté, cela relève du crime, si l'on est, et bien surtout, un simple roturier. La langue est belle, parce que le prince est éduqué, que le thérapeute cite du Shakespeare comme il respire, ce qui donne incontestablement au film une bonne tenue. L'enjeu de ce fameux discours est énorme, il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration de guerre qu'on ne peut faire en bégayant, surtout quand en face, on a en Allemagne un petit moustachu qui éructe et qui lève les foules. Notre roi sera d'ailleurs fasciné par les images d'actualité venant du Troisième Reich. Lui, le bègue, qui ne s'était jamais préparé à être roi alors qu'il en avait toutes les qualités. Les deux acteurs sont formidables et la mise en scène leur donne bien l'occasion de briller. Mais soulignons-le encore une fois, la véritable histoire est ici une histoire d'amitié entre un homme au-dessus des autres et puis un autre qui se réalise à travers lui, même s'il s'en défend.
Je le dis, Pontera.
Cinérama sur Divergence FM.
Laissez le docteur Parnassus ouvrir les portes de votre imagination et vous faire atteindre des sommets sur les ailes de la beauté en vous transportant dans les mondes inimaginables.
Ça finit avec une fin heureuse ?
Désolé, on ne peut pas le garantir.
Alors à l'instar de Tim Burton, Terry Gilliam est un réalisateur dont on peut reconnaître le style en quelques plans. Tout au long de sa filmographie, il est parvenu à développer un univers visuel et narratif très particulier, entre baroque et grotesque, un monde où l'imagination prime sur le réalisme et où l'humour est toujours prêt à surgir des situations les plus noires. Alors qu'aujourd'hui, trop de cinéastes se contentent de reproduire à l'écran ce que tout un chacun peut découvrir en vivant sa vie quotidienne ou en ouvrant un journal, que ce soit dans des mélodrames, des films sociaux ou même des films policiers, eh bien Gilliam, lui, en grand raconteur d'histoire, nous embarque avec chacune de ses œuvres dans des aventures toutes plus incroyables les unes que les autres. Il n'hésite pas à nous entraîner dans des dimensions inexplorées, dans la fantaisie, la science-fiction ou le conte, pour le temps d'un film, nous faire un peu oublier la réalité. Alors pour tenter de vous faire partager mon intérêt, ma passion presque pour le bonhomme, je vais essayer de ne pas tomber dans ma fâcheuse habitude de retracer avec une précision de monomaniaque la carrière d'un réalisateur, du berceau à la tombe, comme je l'avais fait avec Ridley Scott, il n'y a pas si longtemps, à qui j'avais consacré 14 émissions consécutives. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de fonctionner différemment et d'aborder Terry Gilliam de façon pas chronologique et de façon à dégager de son œuvre une partie de sa substantifique moelle. Donc en me replongeant récemment dans sa filmo, je me suis rendu compte que chacun de ses films peut être considéré finalement comme la variation d'une même thématique récurrente que le réalisateur explore depuis maintenant plus de 30 ans. Dans tous ses films, depuis Jabberwocky en 1976 jusqu'à l'Imaginarium du docteur Parnassus, Gilliam s'est intéressé de façon plus ou moins évidente à la question de l'évasion dans l'imaginaire, le fantasme et l'hallucination, ou comment fuir la triste réalité pour se réfugier ailleurs, et comment cette fugue permet de mieux prendre conscience de ce qu'il y a de beau, d'admirable, ou au contraire de particulièrement affligeant dans le monde réel. Voilà, vous l'aurez reconnu, donc un extrait de la bande originale de Brazil. Hein. Et maintenant que vous avez cette rengaine dans la tête pour toute la semaine, on va pouvoir commencer. Donc pour son premier long métrage, Terry Gilliam choisit de porter à l'écran un court poème de Lewis Carroll, Jabberwocky, qui se trouve dans le deuxième roman consacré aux aventures de la petite Alice, De l'autre côté du miroir. Alors dans le livre, le poème d'une page environ est rédigé à l'envers et doit être lu dans un miroir. Mais même remis dans le bon sens, le texte reste particulièrement énigmatique. Je vais vous lire la première strophe. Il était reveneur, les slictueux toves sur la loin giraient et vriblaient, tout flivoreux vaguaient les borogoves, les ferchons fourgus bourniflaient. Voilà, donc c'est assez particulier, ça a beaucoup plu aux surréalistes, entre autres Antonin Artaud. C'est un très court poème d'une page à peu près. Et Gilliam s'est servi de cette histoire en fait, qui raconte un peu une aventure d'un dragon qui menace les habitants d'un village et un jeune va affronter le dragon. Donc le style du film est encore très inspiré par le ton absurde et l'humour potache du Monty Python's Flying Circus, le groupe au sein duquel Gilliam a commencé à faire parler de lui en tant qu'animateur, puis dont il a réalisé le premier film, Sacré Graal. Alors si le film en lui-même ne traite pas particulièrement de l'imaginaire ou de la relation entre réalité et fiction, il est intéressant de voir que le réalisateur a choisi son matériau de départ dans l'œuvre de Lewis Carroll, qui est l'auteur d'une des plus notables évasions dans le merveilleux. Donc, contrairement à Tim Burton, qui s'est complètement foiré avec son Alice au Pays des Merveilles en 3D, Gilliam ne s'est jamais frotté à une adaptation directe de cette mythologie particulière. Pourtant, presque 30 ans plus tard, il ouvre l'un de ses films sur ces mots.
Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier, comme dans un tunnel. Puis le sol s'abaissa brusquement. Si brusquement, qu'avant d'avoir eu le temps de penser à s'arrêter, elle se trouva en train de tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Soit que le puits fût très profond, soit qu'elle tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait tout le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer.
Alors Tideland, sorti en 2005, débute par cette lecture de quelques lignes de Lewis Carroll, une façon habile de nous entraîner dans ce conte extrêmement noir, mortifère et chargé de symboles en tout genre. Donc dans Tideland, le spectateur suit une petite fille dans sa descente, non pas aux enfers, mais dans le terrier morbide et psychédélique d'un lapin mort depuis belle lurette. Donc Jeliza Rose est la fille d'un chanteur de rock aux veines pleines d'héroïne, incarné par Jeff Bridges. Après la mort de sa mère, Jeliza Rose et son père partent à la campagne et s'installent dans la ferme familiale abandonnée depuis plusieurs années. Mais dès le premier soir, le père est lui aussi victime d'une overdose et meurt en silence, sans que la petite fille n'en ait conscience. Donc va commencer alors pour elle une plongée progressive dans une série de fantasmes de plus en plus inquiétants et glauques que viennent peupler en vrac des têtes de poupées, des grands requins de prairie et un couple de voisins aussi toqués que des chapeliers. Donc avec Tideland, Gilliam laisse libre cours à la noirceur de son esthétique et à la misère sociale qu'on pouvait déjà rencontrer dans certains de ses précédents films. Donc par exemple dans The Fisher King, réalisé en 1991, qui marquait la première collaboration de Gilliam avec Jeff Bridges, on trouvait déjà des personnages de naufragés, toute une compagnie de clochards, dont certains à la lisière de la folie. Et dans ce film, Robin Williams joue Paris, l'un de ses laissés-pour-compte, qui fuit un drame personnel et se réfugie dans une quête illusoire en prenant un animateur de radio cynique et égoïste qu'il a rencontré par hasard pour un chevalier de la table ronde dont le destin est de retrouver le Saint Graal.
Jack, allons-y pour une dernière répétition.
S'il te plaît,
c'est là que le Saint Graal est dans la... Écoute-moi, je t'en prie, pas de bave ni d'yeux révulsés, je te dis, Paris,
il ne faut pas faire ça.
C'est de l'invention, ton Graal.
Oh, Jack, homme de peu de foi, il y a forcément un Graal. Ce serait quoi alors, un coup de pub du pape, toutes ces croisades? Oh, païen, le Graal existe. Non. Viens,
attends,
écoute-moi, attends.
Hé hey
tu n'es que partiellement dément, et les gens comme toi ont une vie semi-normale, ils peuvent trouver un emploi.
J'ai un emploi, Jack. J'ai une quête.
Je me suis trompé. T'es gravement atteint. Tu vas te faire tuer si t'essayes d'entrer là-dedans.
Tu es trop chaud. Je sais enfin ce que tu veux. Tu veux à tout prix me protéger, hein? Tu crois qu'un danger m'attend?
Non, non, je crois que tu débloques et j'ai pas envie d'avoir des problèmes.
Tu as du cœur. D'abord l'argent et maintenant ça. Oh, ça alors, ça c'est trop chaud. Quel fabuleux garçon tu es!
Ne m'embrasse plus jamais en public, d'accord?
Entre moi, Jack! Je l'aime, ce Jack! Vous entendez? Je l'aime, ce Jack! Oh, tu m'entends, ville blasée!
Tu vas te chier, oui!
Jack! Il a du cœur! Oh, Jack! Que dans cette ville d'enfoirés blasés, tu puisses...
Putain, mais ferme ta gueule, putain!
Vous entendez? Je suis ma boule de ce type! Oh, Jack! Oh, t'es un véritable être humain. Oh, t'es un ami. Un ami. Un vrai. Oh.
C'est faux. Fais-moi confiance. Je suis une salope.
Oh non. Je refuse de t'écouter, tu es bon comme ce bon dieu de bon
pain. Non, je pense qu'à moi je suis faible. J'ai même pas la volonté d'une mouche sur une merde.
Les petits bonshommes t'ont envoyé à cause de ça. Ils le savaient. C'est de la magie, ça.
Oui,
c'est
mais moi je crois pas aux petits bonshommes flottants, je n'y crois pas. Il n'y a aucune magie.
Mais tu m'aideras quand même, Jack.
C'est capital, ça.
Paris.
Tu vas m'aider et c'est...
Paris, ou Dieu sait comment tu t'appelles. Tu sais que rien n'est vrai, ni le Graal.
Jack,
les voix.
Jack, arrête.
Dans un coin de ta tête, tu sais que c'est pas vrai, quand même.
Non, je crois qu'il faut faire un plan d'attaque.
Paris, Jack, écoute-moi.
Jack. Je te trouve bizarre.
Je sais qui tu es. Tu es un intellectuel. Jack, lâche-moi.
L'enseignant à la faculté de Hunter.
Non.
Paris,
non.
T'es un enseignant.
Alors dans le projet avorté L'homme qui tua Don Quichotte, Guillaume avait prévu à nouveau de donner un rôle central à un homme à moitié fou ou complètement fou. Le personnage inventé par Cervantes se persuade lui aussi d'être un chevalier et décide du jour au lendemain de parcourir le monde en quête d'aventure. Alors malheureusement, Don Quichotte est un vieillard décrépit et ce qu'il prend pour des géants ne sont que des moulins à vent, comme chacun sait. Donc encore une fois, dans un film de Guillaume, la fiction devait venir recouvrir une partie de la réalité, pour le meilleur ou pour le pire. Mais bon, la production du film entamée en 2000 a été frappée par une série de calamités qui ont contraint Guillaume à abandonner son projet. Alors, au passage, assez récemment, le réalisateur a réussi à récupérer son scénario des griffes des assureurs et le film a été relancé avec Ewan McGregor en lieu et place de Johnny Depp et Robert Duvall dans l'armure que devait enfiler Jean Rochefort. Donc revenons à nos moutons. La thématique de la folie, on la retrouve dans d'autres longs-métrages du cinéaste. Par exemple, à un certain point de L'Armée des 12 singes, le personnage qu'interprète Bruce Willis commence à suspecter sa santé mentale d'être responsable de la situation cauchemardesque dans laquelle il se trouve, et le doute de s'installer aussi chez le spectateur avant que la triste réalité ne vienne se rappeler à lui.
Je ne viens pas vraiment de l'espace.
Lui, c'est Washington. Il ne vient pas vraiment de l'espace.
Ne te moque pas de moi, l'ami.
Dégage de mon fauteuil !
Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère ?
Mais la folie n'est pas la seule façon de fuir la réalité chez Terry Gilliam. Il y a un autre moyen, moins destructeur, qui consiste tout simplement à s'abandonner à la fable, à la légende ou au mensonge.
Et tandis que se levait le soleil sur l'île au fromage, étirant les longues ombres des buissons à saucisses, illuminant la crête des arbres à miel, et réchauffant les champs de saumon fumé, moi, baron de Munchausen, qui suis reconnu d'abord et avant tout pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Alors travestir la réalité grâce au conte, c'est le thème central des aventures du baron de Munchausen. Et d'une certaine façon, le récit des frères Grimm, donc un autre film que Guillaume a réalisé en 2005, le récit des frères Grimm gravite également autour de cette même question. Donc dans Munchausen, Guillaume utilise un personnage de la littérature allemande pour créer une histoire rocambolesque qui entremêle réalité et fiction. Le film commence dans une ville en siège, encerclée par une armée de Turcs sanguinaires. Et dans ce cadre pas vraiment idéal, une troupe de théâtre essaye tant bien que mal de raconter sur scène les hauts faits du célèbre baron de Munchausen. Quand une personne dans le public interrompt le spectacle et déclenche un scandale en prétendant être le véritable baron. Donc s'en suivent des péripéties toutes plus incroyables les unes que les autres, jusqu'à un dénouement qui vient remettre en question tout ce qui a été vu jusqu'alors.
J'ai bien peur que vous disposiez d'une mauvaise approche de la réalité.
Votre réalité, sir, n'est que l'heure et baliverne. Et je me délecte à vous dire que je n'en ai aucune approche, ni de près ni de loin.
Non. D'évidence, le pauvre a besoin d'un docteur.
Un docteur.
Le spectacle continue en dépit de tout. Merci, votre ordinarité.
Voilà, donc si Munchausen, c'est avant tout un hommage au conte fantastique, Il permet également à Gilliam de mettre pour la première fois en abîme son propre travail en tant que cinéaste et raconteur d'histoires. Donc une thématique que le réalisateur explorera à nouveau avec l'Imaginarium du docteur Parnassus bien des années plus tard. Quand les personnages de Terry Gilliam ne sombrent pas dans la folie complète ou ne se racontent pas des histoires à dormir debout, ils peuvent toujours se rabattre sur une autre façon de fuir le monde. Une façon que certains ont qualifiée de paradis artificiel.
On avait 2 sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage, et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite.
Alors en adaptant le roman culte de Hunter Thompson, Las Vegas Parano, Gilliam nous propose une balade sous acide de 120 minutes dans le Las Vegas des années 70. Donc nous suivons Raoul Duke, incarné par Johnny Depp, un journaliste alter ego de Hunter Thompson, qui part couvrir une course de moto dans le désert qui entoure la ville du péché. Donc accompagné de son avocat, qui est joué par Benicio del Toro, Raoul Duke va mettre à profit ce reportage, dont il se fout comme de sa première ligne de coke, pour repousser les limites de la défonce et tenter de toucher du doigt l'essence de cette période cynique qui voit les utopies des années 60 s'écrouler les unes après les autres. Alors Las Vegas Parano est peut-être ce que Gilliam a tenté de plus expérimental d'un point de vue formel mais aussi narratif. En fait, le film est fidèle au concept du journalisme gonzo inventé par Thompson et consiste donc en une immersion subjective et sans cesse perturbée par la drogue dans le Las Vegas décadent de l'an de grâce 1971. Alors pour faire sortir ces personnages de la réalité, Gilliam a aussi eu recours par 2 fois à un procédé classique de la science-fiction, le voyage dans le temps, qui permet de quitter un plan de réalité sans pour autant basculer dans l'imaginaire, la folie ou dans un réel altéré par les drogues. Donc dans Bandit Bandit, le héros est un petit garçon qui s'ennuie dans sa vie trop bien rangée et qui va partir à la suite d'une bande de nains voleurs dans une exploration de l'histoire. Donc de Robin des Bois à Agamemnon, en passant par Napoléon, le jeune Kevin va rencontrer une pléthore de personnages légendaires et faire un voyage inoubliable avant de revenir dans le présent, qui va être passablement bouleversé par son incursion dans le temps. Ensuite, avec L'Armée des 12 singes, le réalisateur revisite le court-métrage de Chris Marker, La Jetée, et propulse son personnage dans une course-poursuite à travers le temps pour éviter qu'une apocalypse bactériologique ne survienne. Gilliam signe l'un des plus fascinants films de voyage dans le temps de toute l'histoire du cinéma et offre à Bruce Willis son rôle le plus complexe et le plus remarquable.
Dans votre semi-inconscience, comme nous vous interrogions, vous avez dit que vous adoriez la musique.
Ce n'est plus la prison, James.
Vous êtes à l'hôpital.
Jusqu'à ce que vous retrouviez votre équilibre.
Vous êtes encore un peu désorienté.
Les voyages dans le temps, c'est extrêmement éprouvant.
Vous en êtes très bien tiré, tout compte fait.
Vous avez établi les liens qui existent entre l'Armée des 12 singes et les Goïns Spéréfiques.
D'autres vont prendre le relais.
D'autres vivront en surface d'ici quelques mois.
Reprendront le contrôle de la planète.
C'est gagné, James. Voici la récompense de vos efforts.
Et quelle récompense? Une grâce.
Vous sortirez bientôt.
Toutes les femmes vont se pendre à votre cou.
On veut pas de vos femmes, je veux guérir!
Allons, vous irez bientôt mieux, James. La promis.
Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas vrai.
Personne ne peut voyager dans le temps.
Woup, woup. Non.
C'est du délire.
En réalité, vous n'êtes pas là. Vous êtes dans ma tête.
Je suis fou. Et vous êtes ma folie.
Voilà donc un petit exemple du pétage de plomb de Bruce Willis dans ce film. Alors j'ai gardé pour la fin 2 longs métrages qui ont une place particulière dans la filmographie de Terry Gilliam. Donc son dernier film en date, L'Imaginarium du docteur Parnassus, qui est un voyage fascinant dans l'imaginaire des individus. Donc en passant de l'autre côté du miroir du docteur Parnassus, chaque personnage se retrouve dans un univers de fantasmes où va se jouer une lutte acharnée pour le salut de son âme. Le film entier se construit autour de cette idée de fuite dans la fiction et de la révélation que cette fiction peut offrir aux explorateurs pour mieux appréhender le réel une fois sorti de l'imaginarium. Et avec ce film, on retrouve avec bonheur les talents de poète et de créateur d'images de Gilliam. Le film est somptueux et le sujet permet au réalisateur de parler à nouveau de son travail en tant que créateur, un peu à la façon du Big Fish de Tim Burton, mais avec moins de mélodrame et un peu plus de folie.
Quelque part en ce monde, à cet instant, une personne raconte une histoire. Une histoire différente, une saga, une histoire d'amour. Le récit d'une mort imprévue, cela importe peu, mais cela maintient l'univers. C'est pourquoi je suis encore ici. On ne peut empêcher une histoire d'être racontée.
Donc voilà, pour une critique un peu plus conséquente de ce film, je vous renvoie à l'émission de Cinérama du 18 novembre, si vous êtes intéressé. Vous pouvez trouver le podcast sur le site de Divergence FM. Donc pour conclure sur Terry Gilliam, parlons rapidement de Brazil, le film qui m'a fait tomber amoureux de Terry Gilliam et qui constitue pour beaucoup de spectateurs son chef-d'œuvre. Alors, adaptation officieuse du roman 1984 de George Orwell, Brazil nous plonge dans une dystopie cauchemardesque, gangrénée par une administration kafkaïenne. Sam Lowry est un petit fonctionnaire qui passe son temps à rêver qu'il est un surhomme en guerre contre des forces maléfiques. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, la dégénérescence du monde qui l'entoure vient contaminer ses rêves et Lowry s'enfonce progressivement dans la paranoïa et les hallucinations. Donc avec Brazil, Gilliam nous propose un film d'anticipation parfait, suffisamment surréaliste pour être drôle et suffisamment réel pour donner naissance à une tragédie romantique qui nous touche en plein cœur. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous conseiller d'éteindre la radio, de vous précipiter dans le magasin le plus proche et de vous immerger dans cet univers loufoque, poétique et assez inoubliable que nous a offert Gilliam il y a de ça 25 ans. Vous ne le regretterez pas et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus par ma diatribe et qui préfèrent télécharger un screener de Transformers 2 en VF, je vous promets que ça va mal se passer.
Matricule 93-HKS-608, vous êtes accusé des faits suivants. Aide et assistance apportée aux ennemis de la société. Assistance à une fugitive réclamée par la justice. Divulgation de divers documents secrets à agents subversifs, voire dossier RG12, Gillian Layton. Destruction de matériel officiel décrit comme étant un nombre indéterminé de véhicules personnels. Appropriation des véhicules officiels. Contrefaçon de la signature du chef de service des archives officielles. Tentative de détournement de fonds officiels sous forme d'un chèque au nom de Buttle, établi en infraction avec la procédure. Sabotage des canalisations de centrales service. Résistance aux forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission, diffamation du gouvernement et notamment de la réputation exemplaire et sans tache du bureau de recoupement des informations, tentative de démantèlement du système de communication par voie interne du bureau de recoupement, gaspillage de la patience du ministère et du papier à lettres.
Ou bien vous admettez votre culpabilité sur l'essentiel des chefs d'accusation, ce qui réduira les frais et les mettra à portée de votre bourse, ou on vous prête la somme voulue à un taux à débattre mais très compétitif, choisissez.
Nous vous offrons un prêt, disons 3/4% sur 30 ans, mais vous devrez souscrire une assurance afin d'être éligible.
Si vous préférez, on peut prendre une garantie qui serait défalquée de votre compte à concurrence d'un million.
À ce stade, vous êtes seulement requis de signer ce document.
Votre intérêt est de bien réfléchir, car en matière financière, réflexion vaut gain. Décidé.
Plaidez coupable, c'est plus facile, plus rapide et plus économique.
Voilà, un petit aperçu de l'ambiance
sonore, oui, effectivement, sonore derrière fond et puis tout ce qu'on lui reproche. Voilà. Extraordinaire.
Donc, eh bien, c'est terminé pour cette approche rapide et subjective de l'œuvre de Terry Gilliam. Alors si, comme je l'ai fait, il est possible de dégager de sa filmo la thématique récurrente de l'évasion dans la fiction, une idée qui renvoie bien sûr à la fonction première du cinéma, en particulier du cinéma de l'imagination, on peut aussi aborder ses films de différentes façons. L'œuvre de Terry Gilliam est d'une richesse assez incroyable. À chaque nouvelle vision d'un de ses films, on découvre de nouveaux détails ou de nouvelles portes d'entrée pour pénétrer dans la tête de ce grand monsieur du cinéma dont on attend avec impatience le prochain film.
Cinérama sur Divergence FM.
Le César de la meilleure actrice est attribué à Sarah Forestier pour le nom de Jean.
Ça me paraît tellement pas réel en fait. Merci beaucoup. J'ai rien préparé et en fait, le seul truc que j'avais préparé aujourd'hui, c'est que j'ai mis ma culotte qui me porte bonheur. Le pire, c'est que c'est vrai.
Le nom des gens est donc une comédie et plutôt gonflé, pour ne pas dire politiquement incorrect, avec deux personnages centraux. Alors il y a Baïa, interprété par Sarah Forestier, et Arthur Martin, interprété par Jacques Gamblin. Alors faisons connaissance avec le trait caractéristique du personnage de Baïa. Étant certaine qu'on ne peut convaincre un opposant politique par le discours, elle couche avec l'ennemi pour le rallier à sa cause, la gauche, l'humanisme, l'anti-individualisme.
Parce que moi je peux faire des grandes choses avec mon cul, tu sais. Mais regarde, quand on discute avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, on n'arrive jamais à le convaincre. On y arrive beaucoup mieux par le sexe, je te promets. Viens, je t'ai ramené mon cahier. Regarde lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ? T'as vu ? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde, et ben maintenant, il fait des crêpes sarrasin. Lui, il était président d'un club de quad, maintenant, il fait de la capoeira. Bon, tu vois, évidemment, le temps de conversion, il varie selon le degré de connerie du gars. Pour un mec du FN, il me faut bien au moins 10 jours. Alors que pour un fan de Bayrou, en une après-midi, c'est plié.
Mais pourquoi le quad ?
Pourquoi le quad ? C'est des fachos. Tu savais pas ? Le quad, c'est super facho.
Mais moi... Pourquoi moi ? Je vois de Jospin.
Bah, toi, c'est pas pareil. Toi, tu me plais ?
Eh oui, comment peut-on être jeune et de l'UMP ? Alors, des questions qui resteront en suspens, car le film ne traite pas de cela, mais emprunte avec le personnage de Baïa des raccourcis, des jugements spontanés, des frayeurs idéologiques aussi. Nous sommes dans l'après-deuxième tour de 2001.
Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ?
Le quad, c'est facho. Le mec de droite est facho. Élevé dans une famille avec une mère hippie et un père sans papier, la jeune Baïa a toujours baigné dans un milieu militant. Ses jugements sont loin d'être arbitraires, mais ils sont pour le moins définitifs. Son engagement est troublant et inattendu, son prosélytisme souvent couronné de succès. Et elle conserve tout le long du film une joie de vivre, une spontanéité qui n'est pas pour rien dans la réussite du film. Alors avec elle, Arthur Martin, un spécialiste des épizooties animales, gourou du principe de précaution, et jospiniste. Alors autant dire que ça n'est pas une cible pour Baïa, il n'est pas facho et qu'on aurait peine à imaginer qu'ils puissent s'entendre. Et pourtant, c'est Arthur Martin, fils d'une mère juive et d'un père ayant travaillé dans le nucléaire, éduqué dans l'oubli de la Shoah parce que le grand-père a été victime d'une rafle, eh bien, il va s'entendre à merveille avec Baïa Ben Hamoud, avec quelques éclats. Parce que l'écart entre ces deux personnages, la bavarde et le précautionneux, ne peuvent donner que des étincelles. Et on vivra un dîner avec les parents où Baïa devra absolument éviter de froisser la belle famille. Un véritable défi pour une fille aussi spontanée. Voici les préparatifs au repas.
Et réchauffement de la planète ?
Réchauffement de la planète égale pétrole. Qui dit pétrole dit nucléaire. Et surtout, tu ne parles pas de ça, mon père. Je te connais, tu vas l'énerver.
Bon, bah, je sais pas, moi. Qu'est-ce qui me reste ? Les bouchons dans Paris ?
Tu rigoles ou quoi ? Bouchon dans Paris égale taxi, taxi égale le grand-père égale Auschwitz. Et surtout, je ne veux aucune allusion à ce sujet.
Non mais attends, en fait, on peut parler de rien avec tes parents ?
Exactement. Moi, ça m'a pris des années à trouver des sujets qui ne parlent de rien.
Ah, ça va être super, la soirée.
T'avais qu'à pas les inviter.
Toutes les scènes sont ainsi vivantes, drôles, faisant autant intervenir un comique burlesque de situation ou des bons mots. Michel Leclerc a une large palette d'effets pour évoquer avec drôlerie la Shoah, l'inceste, l'immigration et l'identité nationale, les stéréotypes de la société française, du militant borné et râleur au conformisme des classes moyennes. Le nom des gens est un condensé de société vu sous l'angle de personnages tous bien campés, comme le père de Baïa, immigré habile de ses mains, qui occupe son temps libre à aider les autres plutôt qu'à parfaire son art de la peinture, et tout cela par excès de modestie.
C'est beau ce que tu fais.
Ah, non, c'est rien.
Tu voudrais pas qu'on présente tes peintures à une galerie ?
Même si je peux pas aujourd'hui, je dois dépanner avec Léo de Madame Martinez.
Non, mais pas aujourd'hui, un autre jour.
Un autre jour, je pourrais pas non plus. J'ai le sèche-linge des Médina, le radio réveil des Belkacem, le scooter du Pietoufik. Et t'inquiète pas, j'ai besoin de rien.
Mais papa, moi j'ai envie de te faire plaisir.
Le plaisir, ça sert à rien. Garde-le pour toi.
Il est totalement impossible de faire plaisir à mon père. Et ça m'énerve. T'as vu, j'ai réussi à les convaincre de les regarder, ça leur a plu tout de suite.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que tu te rends compte ce que c'est que d'être exposé ici de ton vivant?
Ouais, je suis très content, Betty. Mais je vais devoir y aller. J'ai le grille-pain de Madame Pupovac. Ils ont plus de pain grillé le matin, c'est embêtant.
Mais attends, papa! Gauguin, Van Gogh, Ben Mahmoud!
Ah ouais, c'est joli. Mais tu sais, sans pain grillé le matin, c'est dur.
Le nom des gens est une comédie, un film avant tout, reflet de notre époque, et c'est peut-être pour ça qu'il faut le voir maintenant, car dans 10 ans, il aura sûrement perdu de sa superbe.
Pardon, Michel, Baya, c'était tellement incroyable ce film. Merci. Ça m'a fait vivre. C'était tellement libre. Vous êtes tellement vivant. Et ce film, il est tellement dans la vie. Ouais, vous êtes incroyable, je vous aime.
Cinérama sur Divergence FM.
Mais on débute cette émission Cinérama avec Gaspard Noé, un gros plan donc sur ce réalisateur qui fait partie de ceux qui ne transigent pas avec la forme, qui, même plutôt que d'appeler un chat, eh bien, Noé va appeler un chat sauvage avec des crocs, un poil hérissé, et puis une fin de loup. Alors son style est reconnaissable, autant pour une esthétique du cadre singulière, le montage avec des intertitres parfois informatifs et bienveillants, des décadrages dans l'image quand ça n'est pas le film entier, qui est monté à l'envers, pour le son aussi, laissant une large place à l'ambiance et sur quelques séquences avec ça. Style reconnaissable donc d'un film de Gaspard Noé. Alors il est très éloigné du cinéma bourgeois parisien et ses bons sentiments, et c'est plutôt salutaire car cette sorte de cinéaste se reproduit à grande échelle. Et à bientôt 47 ans, Enter the Void est seulement son 3e long métrage. Alors il est né en Argentine d'un père peintre et d'une mère assistante sociale et passe son enfance entre Buenos Aires et New York, et c'est à l'âge de 12 ans qu'il arrive en France. Alors il sort d'un bac L, philo, avant d'entrer à l'école de cinéma Louis Lumière de Paris, et une fois le diplôme en poche, plutôt que de tourner, eh bien, il continue à étudier la philosophie et devient assistant réalisateur. Il réalise ses premiers courts-métrages dans les années 80, alors d'abord Tintarella di Luna, en 85, l'histoire dans un village on ne sait où, d'une femme qui quitte son mari pour rejoindre son amant de l'autre côté de la rivière. C'est un coup d'éclat, une œuvre de jeunesse qui laisse apparaître les thèmes récurrents de Gaspard Noé, la sexualité, la bestialité et puis la morale. Acheté par Canal+, il a été diffusé à l'antenne juste avant Eraserhead. Eraserhead, le premier long métrage de David Lynch. Alors, il tourne en 87 Poulpe amer, l'histoire d'un homme qui pénètre dans la chambre de sa bonne et tente de la violer, tandis qu'un feuilleton radiophonique décrit les pensées d'un homme pris dans une passion amoureuse. Amour contrarié, donc c'est aussi un des aspects de la thématique de Gaspard Noé. Alors d'amour, il sera question dans sa vie, puisque à cette période, eh bien, il rencontre Lucille Adzia Lilovic, réalisatrice issue de la Fémis. En 91, il monte les cinémas de la zone, c'est leur société de production. Et c'est avec cette société de production qu'il sort le dérangeant Carnet, moyen-métrage qui raconte l'histoire d'un boucher, interprété par l'excellent Philippe Naon, pas commode, le boucher, élevant seul sa fille handicapée mentale, et qui va finir par commettre un meurtre croyant que sa fille a été abusée.
Je vais le tuer. Je vais le tuer.
Il n'avait pas le droit. Non, il n'avait pas le droit.
Je vais le tuer, celui-là.
Pas avec ma fille. Il va crever, ça c'est sûr, il va crever. Et je sais comment. L'enculé, je vais le saigner. Je vais vraiment le saigner. Le voilà, il attend. Il fait semblant de rien. Comme si j'étais con. Il va se faire passer pour une victime. Oh, c'est un malin. On donne toujours raison aux victimes. Du calme. Il faut réfléchir. Voilà, ça y est, ça gicle. Mais le sang ne m'impressionne pas, non. Il croit qu'il va se tirer, mais je rêve. À l'orphelinat, on m'avait déjà appris la loi du plus fort. C'est par la force que j'ai gagné le territoire. Mais des fois, ça ne suffisait pas de montrer mon poing, il fallait sortir le canif. Devant le couteau, on incline la tête, c'est ça. C'est bien ça qu'ils m'ont dit. Mais des fois, j'ai été trop loin. Je hais la violence. Personne ne l'aime. Mais il faut en passer par là.
Arrête ! C'est pas lui !
Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mourir ? Quoi, il a peur ? De toute façon, tu dis pas ça. C'est écrit sur sa gueule. Pourri.
Alors, la haine qu'on entend, eh bien, n'est peut-être rien comparée à ce qu'on voit à l'image. Hein. Ce sont des images violentes. Enfin, tout simplement, il l'égorge. Alors, discours en voix off, multiple, on l'a entendu, hein, in et off. Plan saccadé, tonalité rouge dans l'image, décadrage, intertitres, scène violente et le discours qui va avec. Alors, on va écouter un autre extrait de ce premier moyen-métrage. On pourrait intituler ça « Le sens de la vie ».
J'aurais tellement aimé qu'elle m'appelle papa, au moins une fois dans ma vie. Mais non, tout ce que j'aurais aimé dans la vie, je ne l'ai jamais eu. Pas de mère, pas de femme. Et même ma fille, je ne l'ai pas vraiment eue. Mais elle, je l'ai aimée. C'était la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer dans un bled pourri avec cette grosse salope. Elle, elle a eu ce qu'elle voulait. La même chose que toutes les femmes, d'ailleurs. Un bébé qui lui pompe les seins, qui grandisse et la protège jusqu'à la mort. C'est tout con à faire, et ça leur donne l'impression que leur vie a un sens. Comme si la vie pouvait avoir un autre sens que sa propre survie. Le monde, c'est chacun pour soi. Un type tire sa crampe, et pour un orgasme de 9 secondes, son enfant doit morfler pendant 60 ans.
Alors il tentera de produire une version longue de ce qui reste un vrai coup d'éclat, mais il faudra attendre 98 pour que sorte enfin Seul contre tous, qui sera plus que la version longue de Carnet. On y retrouve en fait le boucher qui a purgé sa peine et qui est toujours haineux. Il en veut à tout le monde, carrément raciste et misogyne. Le personnage est toujours interprété par Philippe Naon. Alors ce film laisse certains spectateurs sur le carreau. Le personnage évolue dans un monde prolétaire où tout a foutu le camp. Dans le discours, il est question de notre société, de la vie et la souffrance et de la pensée. Alors une pensée abattue, un type qui se bâtit une morale avec ses propres moyens, soit un pistolet. C'est un film profondément nihiliste, pas seulement provoquant, et qui prolonge ce qu'on avait vu à l'œuvre d'Encarné.
Déjà 2 semaines que je suis là, et finalement, depuis la tôle, j'ai jamais été aussi peinard. Ici, c'est pas pire que la prison. C'est même plutôt mieux. Sauf l'odeur. J'aurais jamais pensé que les vieux pouvaient chlinguer autant. En tout cas, les deux pétasses dans leur HLM, je les supporte plus. Faut pas qu'elle croie que je vais me laisser faire comme ça. Mais voilà. C'est la grosse qui a le fric. Et parce qu'elle a le fric, cette conne se croit tout permis. Et c'est comme toujours. Chacun défend son fric. Chacun défend son steak. Et personne ne le fera pour toi.
Seul contre tous, on le répète. Alors voilà, c'est un film qui a remporté de nombreux prix à travers les festivals du monde entier. Arrive enfin Irréversible en 2002, qui lui aussi va diviser les spectateurs. Et comme Noé, depuis le début à ses entrées à Cannes, eh bien, il y sera en sélection officielle. Alors comment reconnaît-on au son un film de Noé ? On écoute. Voilà, ça donne le tempo donc au générique en fait qui apparaît, générique de fin. Alors on sait tous que le plan séquence montrant le viol dans un tunnel piéton, viol de Monica Bellucci, on a traumatisé plus d'un et plus d'une. Alors l'histoire est simple et c'est encore une affaire de morale. Un viol est commis sur la femme de Marcus, Vincent Cassel, et celui-ci va tout tenter, accompagné par l'ex-petite amie de sa femme, pour retrouver le violeur. Un violeur qui se fait appeler Le Ténia et qui a son repère dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Rectum. On voit tout de suite bien la finesse de Gaspard Noé. On ne s'étonne pas qu'il soit ami avec Yann Kounen, le réalisateur de Doberman. N'empêche, Irréversible n'est pas seulement provocant, mais original et audacieux. Le film est monté à l'envers et commence par la fin, générique compris. Et s'il vous plaît, même les mots sont inversés. Alors si on voit les personnages qui cherchent Le Ténia, on ne sait pas ce qu'a fait Le Ténia et on le découvre qu'ensuite. C'est un film à rebours, tourné en 12 plans séquences, parfois avec une caméra virevoltante qui peut donner le tournis. Il s'agit alors en fait de faux plans séquences permis par le numérique. Et cette manière en tout cas d'appréhender l'histoire fait d'Irréversible une œuvre à part qui prend en tenaille. On part de la violence pour non pas arriver à la cause de cette violence, mais à un événement qui pourrait en être le fondement. L'homme, le seul être digne de morale. Et on écoute un passage.
La personne qui s'est fait agresser tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous connaissez ?
pas l'air d'aller. C'est dur. Je crois toujours que ça arrive qu'aux autres. Puis quand ça nous tombe dessus, on perd les pédales. On sur la police, alors? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire, la police? Vous savez très bien qu'ils vont rien faire. Hein? Ils vont le retrouver, ils vont le mettre en prison. Ils vont lui donner à manger, ils vont l'habiller, ils vont le laver. Ils vont lui donner un médecin. Votre ami, tout à l'heure, il a pas eu le droit au médecin. Hein?
Qui t'es, toi?
Qui je suis? Jusqu'à preuve du contraire, là, je vais devenir ton meilleur ami. Je peux t'aider à le retrouver, si tu veux. Je sais pas, vous avez l'air de gens corrects, bien habillés. Apparemment, vous avez les moyens. Si vous avez un peu d'argent, on peut vous aider à vous venger. L'agresseur, il a fait couler le sang. Le sang appelle la vengeance. Vengeance, c'est le droit de l'homme.
Voilà, moment important du film. La vengeance, c'est le droit de l'homme, mais là, forcément, ça se substitue à toute morale. Irréversible à une base scénaristique très simple, le moment que l'on vient d'entendre est donc un des moments où tout bascule. La haine, encore une fois, va être le moteur du personnage de Marcus. Mais à mesure que le film avance, ou recule, c'est selon, et passé le plan séquence du viol, la violence s'éloigne peu à peu, et on retrouve le discours et la volupté. Une brillante séquence, très longue, que l'on a raccourcie, se déroule dans le métro. Au milieu des voyageurs, une discussion s'engage entre Alex, Monica Bellucci, la volupté, Marcus, son compagnon actuel, l'impulsif, et son ex, interprété par Albert Dupontel, prof d'histoire, le raisonnable. Un dialogue sur le plaisir sexuel finit donc le discours dévalorisant et haineux de seul contre tous. On se détend enfin.
Tous les efforts que j'ai pu faire pour me retenir. Vraiment pendant des heures et des heures, tu te rappelles, oh, couvert de sueur.
Non, je t'explique.
Ah, né, comme
non, comme
une blague. C'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait tirer un coup comme un lapin. Et là, deux heures après, tu jouissais. Pour que j'étais sous la douche, que je dormais. Enfin, oui, c'était un comble.
C'est
vrai, c'est ça que
t'es en train de me dire. Tu m'en confies,
j'ai pas
parlé. Non, c'est qui toi? Moi, j'ai besoin. Mais non, il faut pas expliquer tout ça, tu comprends? Alors que toi, ton problème, ta paranoïa, c'est qu'il faut tout expliquer. Là, il y a des choses que tu peux pas expliquer. C'est comme les discours. Quelquefois, tu baises et après, tout est réglé. Je sais pas pourquoi. T'as plus besoin des... Les corps parlent.
Non, parce que les corps... Quand je baisse, je pars.
Parce que les corps...
Toutes les histoires que je te racontais, c'était que des histoires, c'était que virtuel. Il y a plein de choses qui t'intéressaient dans ce que je racontais. Je suis jamais vraiment arrivé à l'extase. Mais il y a bien une fois ou deux, sois sincère. Dis-moi, là, il n'écoutera pas moi. Plus que ça, mon pote. Plus que ça. Petit bonhomme, plus que ça.
Tu vois que tu parles un télo. À la fin, on arrive toujours terre à terre, on touche le sexe.
Voilà,
après tu lui dis
qu'il est animal. Il n'a pas de langage, tu ne peux pas savoir. Donc oui, moi il y en a vouloir baiser, moi il y en a vouloir manger, moi il y en a Marcus. Viens, essaye de diversifier un petit peu tout ça. Et moi avoir beaucoup de mal, parce que moi possède le langage.
Le langage, venez, on y va.
On est arrivé?
Bon, vas-y, moi je vais rester, j'ai masturbé.
Mais non.
Voilà, ça c'est le dernier tiers du film, hein, les rares moments où c'est à peu près détendu. Alors la toute fin contraste avec le début du film sur la 7e symphonie de Beethoven, un poster de 2001, l'Odyssée de l'espace accroché dans une chambre. On se retrouve au-dessus d'un jardin d'enfants avec une pelouse verte. La caméra tournoie au rythme d'un enfant qui s'amuse avec un tourniquet d'arrosage. La caméra s'en va dans les airs et là on assiste à une expérience qui mettrait les épileptiques plutôt dans l'embarras. Est-ce un bombardement de protons, grésillement, images blanches, alternatives? C'est une autre version du trip métaphysique de Kubrick, clairement. Alors, si Noé insiste sur l'animalité dans ses films, la part de bestialité en l'homme, opposée à la morale, ça serait gratuit s'il n'y avait pas de mise en scène pour éclairer son point de vue. On pourrait reprocher à Noé de surligner la violence par des effets de mise en scène, mais c'est précisément ce qui fait la force de ses films. À mon sens, c'est un film à ranger dans la DVD Tech.
Contrairement à ce que je croyais, une salle de cinéma n'est pas un lieu sacré, un lieu intouchable, un musée destiné à accueillir les diverses manifestations du 7e art. Non, les salles de cinéma sont plus que ça, ce sont des lieux de vie, des agoras du 20e siècle, et les salles obscures sont donc des lieux que l'on peut utiliser pour de nombreux usages. Voici donc un petit panorama de ce que vous pouvez faire dans une salle de cinéma. Alors l'une des choses les plus évidentes, mais qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie, c'est déguster dans un fauteuil de cinéma un hamburger au fromage accompagné de frites et de soda à boire à la paille. Alors la plus grande difficulté à laquelle vous serez confronté sera de faire entrer la nourriture dans la salle. En effet, de plus en plus d'exploitants refusent que l'on vienne assister à une projection avec un poulet rôti dans une main et une bouteille de Bordeaux dans l'autre. C'est absolument déplorable. Et pour échapper au contrôle de ces fascistes qui briment la liberté individuelle, suivez mon conseil, cachez votre petit gueuleton au fond d'un sac à dos, sous une écharpe ou un sac plastique froissé, et hop, ni vu ni connu, vous n'avez plus qu'à vous installer dans la salle et manger en gardant la bouche bien ouverte pour faire profiter toute la salle des bruits de mastication et du délicat fumet à l'ail ou au maïs soufflé de votre petit encas. Alors n'oubliez pas de jeter vos emballages à même le sol avant de sortir de la salle pour qu'en cas de contrôle, on ne trouve rien dans votre sac. Donc vous pouvez également opter pour le classique pot de 2 litres de pop-corn vendu sur place la plupart du temps pour la modique somme de 5 euros. Alors une autre chose que vous pouvez faire dans une salle de cinéma et à laquelle on ne pense pas spontanément, c'est téléphoner. En effet, loin des bruits de la ville et des regards courroucés de ceux qui ne supportent pas que l'on téléphone dans les transports en commun ou à la terrasse des cafés, vous pouvez profiter de la quiétude d'une salle de cinéma pour appeler votre belle-sœur ou vos meilleurs amis. Alors quelques petites précautions à prendre toutefois, pensez à activer les bips de votre téléphone cellulaire pour être sûr à 100% d'avoir bien appuyé sur la bonne touche. Pensez à surtout laisser allumer votre téléphone, il serait dommage de passer à côté d'un appel. Et si vous ne voulez pas déranger vos voisins de salle et que vous avez réglé votre appareil sur silencieux, pensez à activer l'éclairage pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on vous appelle. Donc l'éclairage est aussi bien pratique si vous faites tomber l'une de vos frites au sol pour ne pas mettre malencontreusement le pied dessus. Et vous pouvez également profiter de ce moment privilégié pour épuiser votre forfait 60 SMS MMS en fin de mois. Alors une salle de cinéma, c'est avant tout un des derniers endroits où est préservé un certain anonymat. En effet, quand les lumières sont éteintes, vous n'appartenez plus au monde. Plus rien ne peut vous toucher et vous trahir. Si vous avez des problèmes gastriques, c'est l'endroit parfait pour vous soulager. L'obscurité aidant, personne ne pourra vous reprocher d'être à l'origine d'une odeur incongrue ou d'un bruit embarrassant. Profitez-en également pour libérer vos pieds meurtris par une dure journée et déchaussez-vous. Si l'envie vous en prend, piquez un petit roupillon. Les fauteuils sont si confortables. Ils ont quand même un petit défaut, c'est que la position assise provoque bien souvent des ronflements. Mais ne vous en faites pas, hein, si vous ronflez, c'est que vous êtes en train de dormir et donc rien ne pourra vous déranger. Aller au cinéma, c'est aussi un moment social. Profitez d'une après-midi où vous vous ennuyez avec quelques amis pour leur proposer d'aller discuter dans une salle de cinéma. Encore une fois, les fauteuils confortables et l'ambiance feutrée et tamisée d'une salle de cinéma est propice à de bons moments et de vraies discussions entre amis. Et puis cela vous changera de la salle télé de la maison de retraite ou de votre salle de jeux vidéo habituelle. Lorsqu'on va au cinéma à plusieurs, il est de bon ton de confronter sa vision du film avec celle des autres. N'hésitez donc pas à faire des commentaires sur l'action, à expliciter les motivations des personnages ou à critiquer lorsqu'un élément du film vous déplaît. C'est une grande école de la vie que le cinéma, un endroit où le jugement se construit et le libre arbitre se développe. Alors méfiez-vous quand même des personnes qui voudront vous faire taire, ce qui ne manquera pas d'arriver. Ce sont des intolérants, xénophobes, qui considèrent leur confort comme la chose la plus importante au monde, au mépris de la liberté de chacun. Insultez-les copieusement, faites-les quitter la salle, recourez à la violence si nécessaire, mais ne lâchez rien, ne vous taisez pas. Voilà donc une petite sélection de ce qu'il est possible de faire dans une salle de cinéma.
Matin, je fais le malin, faire un pimpin. Les galopins chantent mes refrains, tralala, ça me fait du bien, plus de chagrin, faire un pimpin.
Cinérama sur Divergence FM.
Je suis le nain, le bout en train, tralala, soir et matin, je fais le malin, faire un pimpin.
Chut, Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.